8h33, premier sujet, messieurs les commissaires, on va parler de la vague éventuelle de migrants qui pourraient encore une fois traverser la frontière suite à la décision du président Trump d'expulser les Haïtiens qui se trouvent en territoire américain pour des raisons de sécurité, là, suite tremblement de terre ou encore ouragan.
Et parlons de du changement d'attitude, mais là, radical, quasiment malaisant du gouvernement Trudeau. Vous savez qu'Emmanuel Dubourg, le député de l'équipe de M. Trudeau, député libéral, montréalais, d'origine haïtienne. Il était cette semaine à New York. Et là, je parlais, je me demandais quel message allait passer. Là. Puis là, si on trouvait que le tweet de Justin Trudeau était un extrême, lui, il dit quasiment... Là,
Venez pas.
Je leur dis de rester chez eux, puis que le Canada veut pas les accueillir. Je caricature à peine que le Canada n'est pas question de les accueillir, puis que le statut de réfugié, on n'obtient pas ça comme ça, puis que de se présenter. En fait, il leur dit de se présenter sur toutes les voies illégales aux frontières, là, c'est la pire des choses, puis tout ça. Donc, on est passé. Disons que le diagnostic qui a été fait du gouvernement Trudeau du mois d'août, là, puis de comment ça a été perçu par la population, on est vraiment passé à un extrême. Bah, que sur le plan des faits, je pense qu'il. Il rend beaucoup plus service aux Haïtiens américains parce que, bon, là, ils sont... Ce que ceux qui ont traversé la frontière au mois d'août craignaient, parce que c'est juste une crainte, en août dernier, c'était pas fait. Là, la décision de Trump était annoncée, était dans l'air. C'est les décisions politiques, souvent comme ça, on les voit flotter dans le firmament avant qu'elles soient prononcées. Mais là, présentement, elle est prononcée. Je pense qu'il leur rend beaucoup plus service parce que, dans les faits, je pense que la majorité des Haïtiens qui sont arrivés n'obtiendront pas le statut de réfugié. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous retourner en Haïti. Ceux qui vont passer devant les autorités officielles vont obtenir un renvoi vers Haïti. Ils vont peut-être aller en appel, puis ça va être long. Moi, je pense qu'il y en a bon nombre qui vont vivre clandestinement. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas de chance de gagner. Ils vont se rendre compte que leurs amis ou leurs confrères ou les gens qui sont dans la même situation qu'eux, qui sont allés devant la commission du statut de réfugié, ont perdu leur cause. Donc, ils vont passer sous le radar. Avec tout ce que ça signifie là, de terrible.
Mais je partage pas ton avis, moi. Je pense que c'est un...
Tu penses qu'ils vont être retournés en Haïti?
Non, je le sais pas. Mais je pense que quand il va leur dire utiliser les voies officielles, il y en a pas de voies officielles. Dans le fond,
Je pense qu'ils vont traverser pour vivre clandestinement.
Ben, je pense qu'ils ont intérêt à traverser d'une façon illégale s'ils veulent pouvoir déposer une demande d'asile. Parce que c'est
mais
ça, qui
va
la
être refusé de toute façon.
Mais on ne sait pas si ça va être refusé. Il y en a une partie qui va être acceptée, puis il y en a une partie qui va être refusée.
Mais dans le fond, la question que tu poses, tu as le choix. Ou tu te caches aux États-Unis, donc, dans l'illégalité.
C'est ce que beaucoup vont faire.
Ou tu traverses, mettons, au Canada, puis tu dis...
Tu prends une chance?
Ouais.
Puis t'as des bonnes raisons. Ben moi je franchirais illégalement la frontière de telle sorte que je sois accueilli au Canada comme un réfugié et là je suivrais le processus en me disant au moins je suis beaucoup au Québec dans le cas des Haïtiens, il y a une communauté haïtienne, les gens parlent la langue et je vais être pris en charge par le gouvernement.
Ouais, mais si je te dis que je te retourne, je t'expulse.
Ça se peut mais ça va prendre au moins deux ans ou trois ans.
Ouais,
et là tu vas avoir créé, tu vas peut-être trouver un travail, les enfants vont aller à l'école, ça va devenir difficile là pour la commission de refuser et de renvoyer tout ce monde-là en Haïti. Alors moi, je trouve que c'est un drôle de message qu'il envoie. Le vrai message qu'il devrait envoyer, c'est de dire, on va mettre fin à l'espèce d'entente là, sur les pays tiers sûrs, dont la conséquence, c'est d'obliger les gens à rentrer illégalement s'ils veulent avoir une chance. S'ils font une demande officielle, ils vont être refusés.
Donc, ils sont pas des réfugiés. Ils sont pas menacés dans leur pays. Tu sais, les conditions pour être réfugié, c'est quand même des conditions précises. Il y en a quelques-unes, mais disons, en gros, si on voulait résumer ça en termes simples, faut que tu sois en danger dans ton pays. Tu sais, politiquement, ou peu importe, là, il y a une révolution dans ton pays où t'appartiens pas à bonne religion, où t'appartiens pas à un bon parti politique. Peu importe la raison, là. Si t'es dans ton pays, tu vas te faire emprisonner pour des motifs politiques, ou tu pourrais te faire assassiner, ou t'es dans un danger réel chez vous. Ces gens-là ne le sont pas en Haïti. Ils ont quitté dans le tremblement de terre, ils ont quitté dans la misère, ils ont vécu pendant quelques années à Miami, aux États-Unis, ou peu importe, dans une autre ville aux États-Unis. Mais ils sont pas, s'ils sont retournés en Haïti, à quelques exceptions près, peut-être des homosexuels, peut-être des conditions différentes. Mais pour la grande majorité, Haïti, c'est pauvre. mais ils sont pas menacés en Haïti, ils sont pas en danger en Haïti.
Ils ont obtenu ce statut-là d'Obama au moment où il y a eu...
La misère terrible suivant le tremblement de terre.
Donc, ce sont des réfugiés économiques aux États-Unis. Quand ils s'en viennent ici, là, ce qu'ils viennent faire, c'est essayer de poursuivre je dirais pas la réussite, mais leur survie économique qui a été assurée parce qu'ils ont travaillé, ils ont collaboré, ils étaient installés aux États-Unis.
Dans un pays meilleur qu'Haïti.
Exact.
Là,
puis là, ils viennent ici. Là, nous autres, on peut considérer qu'on va être sévère, puis on va les retourner en Haïti, ou au contraire, puis moi, je pense que c'est l'attitude à avoir, dire, voilà des gens qui ont déjà, qui ont une langue en commune souvent avec nous, pas toujours, mais souvent, en tout cas, dont c'est le français. C'est une population qui est passée par les États-Unis, qui a déjà une connaissance du système. Moi, je considère que pour le Québec, c'est une occasion d'enrichir le Québec, là. Il y a une communauté.
Mais tu penses qu'on devrait les prendre tous? Parce qu'on
devrait ouvrir les frontières. Puis il n'y a pas juste les Haïtiens. Je voyais que cette abolition-là touche aussi 58 000 Nicaraguayens et puis 8 000 Honduriens.
Il y a des Colombiens.
Ça fait comme 125 000 personnes dont une bonne partie pourrait venir au Canada. Est-ce qu'au Québec, au Canada, on a besoin d'une population qui est déjà informée, qui vit déjà selon le mode américain? Moi, je pense que c'est une richesse. Au contraire, on devrait essayer d'ouvrir la frontière ou alors qu'on abolisse l'entente qui lie le Canada et les États-Unis, ce que le gouvernement fédéral pourrait faire. Et rendons la démarche réglementée autrement. Donc, vous faites des demandes d'asile, puis on peut vous accueillir. Là, avec l'entente qu'il y a, l'entente sur les pays sûrs, s'ils font une demande officielle, on va leur dire, ben non, retournez aux États-Unis. Si vous êtes allé là d'abord, puis c'est les États-Unis qui vont décider de votre sort. Autrement dit, retournez en Haïti. Alors, le message, moi, je le trouve...
Comme tu limites le nombre de réfugiés par année, là, t'as pas peur de pénaliser des gens qui vraiment sont des réfugiés au sens où leur vie est menacée dans leur pays?
Comme les Syriens?
Par exemple. Mettons. Ou des Somaliens.
Les Syriens ont été accueillis assez largement.
Parce qu'ils sont nombreux, là.
Ça pourrait être un souci, mais en même temps, en tout cas, moi, tu as raison, ça devrait pas être une raison pour refuser d'autres demandes d'asile de gens dont la vie est menacée ou tout ça.
Mais c'est parce que tu pourrais faire une politique spéciale, une espèce de... C'est permis dans la loi sur les réfugiés, là. Le gouvernement pourrait, par décret, dire que des gens qui ne répondent pas à la définition de réfugiés... Il y a un article, je me souviens plus du numéro, mais quelqu'un me l'avait présenté. Donc, le Conseil des ministres à Ottawa dit que tel groupe, là, les Haïtiens qui ont vécu aux États-Unis, tu définis le groupe et tu dis, eux, on les considère comme des réfugiés, même s'ils ne répondraient pas selon les définitions. Mais là, c'est parce que si tu fais ça, il y a un côté, c'est parce que les autres Haïtiens aussi vont dire, ben, nous autres aussi, on vit la misère en Haïti, puis tout ça. Tu privilégies les Haïtiens qui ont transité par les États-Unis sur les autres Haïtiens. C'est que c'est vraiment pas simple.
Non, mais en même temps, tu sais, comme Trump vient d'adopter une mesure qui est assez draconienne, qui a aucun sens.
Tu pourrais t'adapter puis te dire, regarde,
puis que le Canada dit, on a besoin, nous, de main-d'œuvre, on a besoin de gens qui vont venir. On peut pas nier le fait qu'on est dans une économie qui fonctionne bien de ce temps-là. Il y a des postes ouverts, il y a des besoins qu'on a. On a le vieillissement de la population. C'est une occasion d'ouvrir les frontières à un grand groupe de personnes à la condition...
Français et anglais.
Entre autres, tu sais, c'est vrai pour tout le monde. Ils sont passés par les États-Unis, donc ils sont bilingues, souvent, ou en tout cas, ils parlent le créole, le français, l'anglais.
Ils peuvent travailler chez Adidas au centre-ville.
il y aurait tout de suite un emploi, ouais. Même s'ils sont unilingues, ils pourraient travailler chez Unida. Mais
ils parlent anglais, puis ils pourraient nous accommoder de temps en temps en français quelques mots.
Oui, c'est toujours agréable de se faire dire bonjour. tu m'éloignes de mon sujet principal. Je veux pas tomber là-dedans. Je vais prendre. Ça va m'énerver, puis je vais encore trop parler.
J'aurais pas dû te parler de ça.
Mais la vérificatrice générale, ceci dit. Mentionne dans son rapport qui va être publié aujourd'hui le fait que les systèmes de francisation, justement, et d'intégration au Québec, qui sont financés par le ministère, sont sans résultat fiable.
En fait, autrement dit,
on contrôle pas. Ouais. Puis ça, c'est grave, par exemple.
Es-tu surpris?
Non, ça me surprend.
S'il y a un point, là, tu sais. Dans son histoire, le Parti libéral du Québec a quand même défendu la langue française, puis tout ça, tu sais. Mais sur ces questions-là, je suis pas surpris. Je pense que c'est une question qui est moins prise au sérieux au Parti libéral. Et ça fait plusieurs fois qu'ils sont critiqués.
La francisation
des immigrants. Puis la vraie pas juste de dire ça existe, puis les cours sont là, de de suivre ça, de faire un suivi, d'être sérieux avec ça. Puis je pense que dans les dernières années, ça a été surveillé avec moins de rigueur. C'est-à-dire qu'on a augmenté beaucoup les seuils d'immigration. On a surveillé en contrepartie avec beaucoup moins de rigueur l'apprentissage
français. Mais à tout le moins, ils devraient se préoccuper à tout le moins de l'intégration. S'ils ne se préoccupent pas de la francisation, ça ne m'étonnerait pas que ça les préoccupe pas du tout. C'est clair que ce n'est pas leur préoccupation première. Mais l'intégration du monde, puis l'ouverture des frontières à des grands groupes qu'on est en mesure d'accueillir, puis qui ont déjà une base pour s'intégrer, justement, il me semble que ça devrait faire partie de la réflexion du Canada et du Québec.
On s'arrête là-dessus. Retour la stratégie fédérale pour l'habitation. Déjà, à Québec, ça a été accueilli assez froidement. Les relations ne sont pas très bonnes entre Québec et Ottawa depuis qui repart, logement et autres.
Et autres.
8h43. Autoroute 40.